Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Et aujourd'hui, on termine cette série et le livre de Josué, ok? Pour tous ceux peut-être qui lisaient, on va terminer ça aujourd'hui. Donc ça a commencé, c'est Cindy qui a lancé la série, merci Cindy. Un message d'introduction qui parlait de la transition, c'était vraiment bon. Il y a deux semaines, c'était un invité, mais un ami de l'église, Raphaël Guichou, qui a prêché, qui a couvert les chapitres 1 à 5. La semaine passée, c'est Yves qui a prêché et qui a couvert les chapitres 6 à 12. Et aujourd'hui, on termine avec les deux derniers chapitres, les chapitres 23 et 24. Et si tu m'as suivi jusque-là, tu remarques qu'il y a un trou, n'est-ce pas? Il y a un trou. Qu'est-ce qu'on fait avec les chapitres qui viennent entre 2, 13 à 22? On les oublie, on les skip, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous inquiétez pas, je vais vous en parler un tout petit peu. En fait, ces 10 chapitres-là, ça raconte la répartition de la terre promise. À ce moment-là de l'histoire, ben, voilà, le peuple a conquis beaucoup de territoires. Et puis Josué va commencer à distribuer en fait, les différentes terres. Et la lecture se résume pas mal à telle tribu, vous allez avoir telle terre qui démarre à tel endroit de cette ville qui va jusque là-bas. Et puis ensuite, vous, tel descendant de tel nom. Ce n'est pas une super lecture hyper motivante, tu vois ce que je veux dire? Et c'est que des noms qu'on ne connaît pas, de lieux qu'on ne connaît pas. Alors, c'est une lecture des fois un peu difficile, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la prêcher, mais on s'entend que ce n'est pas toujours le plus évident. Un commentateur a dit à propos de ces chapitres, c'est assez ennuyeux en fait. C'est comme lire une carte, mais sans les images, tu vois. C'est un peu ennuyant. Mais il dit aussi ceci, autant pour nous c'est un peu ennuyeux comme lecture, autant pour les Israélites c'est un moment important. Cette répartition est l'accomplissement des promesses de Dieu envers Abraham et sa descendance. Il se trouve que, en fait, Dieu avait promis à Abraham, justement, tout ce territoire-là. Et on peut lire ça, notamment, la première mention de cette promesse, c'est dans Genèse, chapitre 12, verset 6-7. Ils traversèrent jusqu'aux chênes sacrées de Morée à Sichem. À cette époque, les Cananéens habitaient la région. Dans Josué, dans ce qu'on a pu lire par le passé, c'est justement les Cananéens qui sont, entre autres, combattus. Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Donc, ce qui se passe dans Josué, dans ces 10 chapitres, il faut penser que c'est une promesse qui était faite des centaines d'années auparavant. Et c'est assez fou, c'est une promesse qui était transmise de génération en génération, d'année en année, de dizaines d'années, de centaines d'années en centaines d'années, jusqu'à ce moment-là. Alors pour nous, on se dit, ouais, c'est des répartitions, c'est des mots qu'on ne connaît pas, des lieux qu'on ne connaît pas, mais eux, il y avait tellement de joie, ils disaient, mais c'est fou, on a entendu cette histoire, on a entendu cette promesse, et enfin, on la vit, elle s'accomplit devant nous, et on est en train de vivre ça. Donc si un jour tu lis ces chapitres, et je t'encourage à les lire, ces 10 chapitres-là, il faut les lire avec la joie, la reconnaissance, la fête, la célébration, parce que c'est une promesse qui s'accomplit, vieille depuis Abraham. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans ces chapitres-là, moi je vais prêcher plus 23, 24, la fin du livre, mais c'était bon quand même de dire, on ne skip pas, et puis on ne dit rien à propos de ça. C'est bon à savoir que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Amen. Yes. Ok, 23, 24, Josué, chapitre 23, 24, les amis. On va traverser le chapitre 23 plus au fil du message. Je citerai quelques versets, mais ouvrez avec moi si vous avez une Bible dans Josué, chapitre 24. Et les amis, on va se lire tout le chapitre, parce que nous, on est des oufs, tu vois. Tout le chapitre en entier, ça peut être une longue lecture, mais vous allez voir, c'est passionnant. Il y a un bout d'historique, justement, de ce qui est vécu entre le peuple. Il y a un choix, il y a plein de trucs. Vous allez voir, c'est cool. Donc, on va lire ça ensemble. Moi, je lis dans 2 21. Lisez dans la version que vous voulez, tant que c'est dans une Bible, c'est bien. On pourra questionner la Bible, mais ça va, je ne m'inquiète pas trop. Josué 24, verset 1, et puis on y va ensemble. Logiquement, ça s'affiche au-dessus de moi aussi. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térakh, père d'Abraham et de Nakhor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac comme fils. J'ai donné à Isaac, Jacob et Ésaü. J'ai donné la région montagneuse de Séir en propriété à Ésaü, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par des prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle. Puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens vous poursuivaient, vos pères, jusqu'à la mer des roseaux avec des chars et des cavaliers. Vos pères ont alors crié à l'Éternel, et l'Éternel a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il a ramené la mer sur eux et elle les a recouverts. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Puis vous êtes restés longtemps dans le désert, on peut dire longtemps dans le désert. Je vous ai conduit dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Ils ont combattu contre vous, je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, s'est levé et a combattu Israël. Il a fait venir Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il vous a béni et je vous ai délivré de Balak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivé à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains. Et j'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés loin de vous, comme les deux rois amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc, non. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ses grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Josué dit au peuple, mais vous ne serez pas capable de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal. Et il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué répliqua au peuple, « Ok, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Faites donc disparaître maintenant les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription et une règle à Sichem, et il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là, sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, « La pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. » Josué renvoya alors le peuple, chacun dans son héritage. Je saute au verset 31. « Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. » Amen. Yes, une bonne longue histoire, intéressante. Il y a trois grandes parties que je vais aborder là-dedans. On voit hein, versets 1 à 13, plus ou moins. Il y a tout ce récit, depuis Abraham, justement, cette promesse, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une espèce d'historique qui est fait. Ensuite, Josué va donner comme le choix, vous voulez servir qui ? Dieu, l'Éternel ou alors les autres dieux ? Et puis à la fin, on voit qu'il conclut une alliance, comme pour sceller cet engagement. Et puis on va aborder un petit peu ça. Et j'aimerais commencer avec la fin de l'histoire. Avec cette alliance. Aujourd'hui, on représente ce peuple et justement le but de cette série, c'est de vivre un engagement, une alliance, un cœur entier pour Dieu, d'avoir ce cœur entier pour Dieu. Et le titre de mon message ce soir, c'est « Un cœur entier pour un Dieu entier ». Quand on s'engage dans une alliance, dans une relation avec quelqu'un, on s'entend, c'est mieux de connaître la personne un peu. Hein. Tu ne vas pas te marier avec quelqu'un que tu as rencontré il y a 3 semaines. Je te déconseille en tout cas. Voilà, vaut mieux connaître les personnes. On s'entend, on connaît Dieu, ou alors peut-être on apprend à le connaître et on apprendra toujours plus à connaître Dieu. Mais j'aimerais vous présenter un peu Dieu. J'aimerais vous présenter 3 aspects de Dieu, ce Dieu avec qui on s'engage, avec qui on parle d'avoir un cœur entier, mais envers qui en fait. Okay. Donc, on y va pour 3 aspects tirés de ces chapitres 23 et 24. Vous êtes avec moi ? C'est parti. Premier aspect, il faut savoir que Dieu est un Dieu de transformation. Dans les versets 1 à 13, donc Josué fait ce résumé du parcours du peuple de Dieu depuis Abraham. Et c'est intéressant, parce qu'en vrai, Le peuple, il entend ça, il se dit, tu nous fais venir pour raconter l'histoire qu'on connaît, c'est notre histoire. Enfin, tu vois, on sait très bien, on parle d'une culture de transmission orale, ok, quasiment personne ne savait écrire et lire, donc ils connaissaient très bien leur propre histoire, cette promesse depuis Abraham. Donc, il y a forcément un sens, pourquoi est-ce que Josué raconte ça? Et moi, je trouve intéressant, je crois que c'est comme si Josué disait, regardez d'où vous venez et regardez où vous êtes aujourd'hui. Regardez le chemin que vous avez parcouru, regardez le processus que vous avez traversé. On comprend que depuis l'Égypte, Dieu a emmené son peuple dans un long processus dont l'objectif ou le fruit se perçoit à la fin du livre de Josué. Et cet objectif, c'est d'être capable de choisir Dieu et d'avoir un cœur entier pour lui. Et ce n'était vraiment pas le cas avant. Tu n'as peut-être pas toute l'histoire en tête, mais tu sais, quand Dieu ouvre la mer en deux, le peuple traverse et enfin est libre et libéré de l'Égypte et de l'esclavage. Et la première chose qu'il se dit, c'est qu'est-ce qu'on va manger? Rien. On était mieux en Égypte, on veut retourner en arrière. T'as vu la relation avec Dieu? Super, hein? La confiance en Dieu, nickel, quoi. Ils n'étaient pas du tout rendus là. Et c'était un long processus, mais pour qu'à la fin, ils disent, en fait, on te choisit. Jésus dit, ouais, vous êtes sûr? Oui, non. On choisit l'Éternel. On veut le servir, on va lui obéir. Il y a un avant, un après. Dieu a emmené son peuple dans un processus. Et je vous l'explique rapidement. En Égypte, le peuple était donc en esclavage, un peu déconnecté de Dieu. Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple, puis il envoie 10 plaies, ok? Et le peuple de Dieu, il fait quoi ici? Ben rien, il regarde, puis il bénéficie de ce qui se passe. Ensuite, la mer Rouge, on ouvre en deux. Ok, le peuple ne fait pas rien, il y a Moïse qui lève son bâton. Beaucoup d'efforts, ok. Mais il regarde ce qui se passe, le peuple, il profite de juste ça. Ensuite, dans le désert, qu'est-ce que fait le peuple? Rien, mais Dieu, il fait tomber la manne, et puis il mange. Et puis Dieu, il donne une colonne de feu, puis de fumée pour diriger son peuple, et puis le peuple de Dieu, il est juste là, à regarder, puis à profiter de ce qui se passe. Et en fait, on voit à quel point dans le désert, pendant 40 ans, justement, le peuple est là, genre, non, mais on était mieux avant, puis non, en fait, on te fait confiance. Non, en fait, ça va pas, puis on se plaint. Et la relation avec Dieu, on sent qu'il y avait 400 ans derrière d'esclavage, de déconnexion. Il y avait quelque chose qu'il fallait rebâtir. Dieu amenait son peuple dans un processus. Et en fait, c'est comme si Dieu disait, je te prends par la main, mon peuple. Et puis, occupe-toi pas de ce que tu vas manger, de où tu vas aller, ne t'inquiète juste de rien, sauf de, il faut qu'on renoue cette relation, que tu replaces ta confiance en moi. Je te libère de l'esclavage, mais en fait, je dois te libérer de l'esclavage qui est dans ta tête, dans ton cœur, dans ta culture. Il faut que tu reviennes à quelque chose, à moi, dans cette relation avec moi. Tout un processus. Apprenez à me faire confiance, à renouer la relation. Et à la mort de Moïse, Dieu envoie Josué, puis entame la suite du processus. Tout d'un coup, il faut passer de nouveau un cours d'eau, mais là, Dieu implique les prêtres qui devaient venir et puis se mettre au milieu du Jourdain, puis le Jourdain s'assèche. Et puis là, il faut la terre promise, elle est donnée, mais il faut la conquérir. Il y a quand même une action qui est là. Et en fait, Dieu implique son peuple, il y a un partenariat qui était là, et le but était de rendre justement partenaire le peuple de l'action de Dieu, et donc de restaurer un peu plus la relation entre Dieu et son peuple. Et à la fin du chapitre 24, on voit un peuple qui fait confiance à Dieu, qui choisit Dieu, et qui choisit d'avoir un cœur entièrement dévoué à Dieu. Tout un processus. Cette promesse, elle était tellement ancienne. Tellement ancienne. Et là, il y avait cette conquête. Il devait y avoir tellement d'enthousiasme, tellement de joie. Ça devait être fou à vivre. Mais c'est intéressant de se dire que le but de la conquête du pays promis n'était pas la conquête en elle-même. En tout cas, pas que la conquête en elle-même. C'était de restaurer son peuple à sa place de peuple de Dieu. Dieu voulait remettre son peuple à cette place, dans cette relation. Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. J'aimerais qu'on ait cette relation. Et ça, c'était le but, entre autres, de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de transformation. Un Dieu de processus. Dieu nous amènera toujours dans des processus qui vont nous ramener à être en relation avec lui, en partenariat avec lui, en alliance avec lui. Je ne sais pas quelle est ta conquête à toi ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, toi, en ce moment. Mais comme le peuple avait reçu une promesse, peut-être que Dieu t'a donné un rêve, mis un projet à cœur, indiqué une mission. Peut-être qu'il t'a parlé sur ta prochaine saison de vie, ce qui t'attend. Peut-être, dans ta prochaine saison de vie. Des fois, on désire tellement vivre quelque chose que ce quelque chose passe en priorité devant Dieu. Il nous a promis quelque chose, et des fois, on est là, entre la promesse et l'accomplissement, il y a un délai, et c'est long, et on ne comprend pas. Et des fois, on peut douter de la promesse. J'ai plein de témoignages de ma vie, de choses que j'ai reçues, je suis là. Pourquoi c'est si long entre les deux? Je ne comprends pas. En fait, est-ce que tu m'as vraiment promis ça? Et peut-être que, je te donne quelques exemples, des fois, peut-être que toi, tu es là ce soir, puis tu veux être en couple, mais en fait, tu n'es juste pas prêt dans ton célibat. Peut-être que tu veux plus de responsabilité à ton travail, mais que Dieu doit encore préparer ton caractère. Peut-être que tu veux développer le projet que Dieu t'a mis à cœur, mais que Dieu doit d'abord développer tes compétences pour ça. Peut-être que, tout comme le peuple de Dieu était appelé à rentrer dans le pays promis, mais il a fallu un processus, on s'entend, de 40 ans, c'est beaucoup, ok. Mais ils n'étaient pas prêts pour la prochaine étape. Et peut-être qu'en ce moment, tu vis quelque chose, tu ne comprends pas. Simplement, Dieu t'a emmené dans un processus. Il te prépare pour la prochaine étape. Le peuple de Dieu avait cette promesse en tête en sortant d'Égypte, et je l'ai dit, 40 ans dans le désert. Tu sais qu'entre la sortie de la mer qui s'est ouverte en deux et l'entrée dans le pays promis, c'est 11 jours de marche. Et là, c'était 40 ans parce qu'il y avait tout un processus à vivre. Et je pense à Joseph dans l'Ancien Testament. Si tu as lu cette histoire dans Genèse, c'est Joseph, ok, il a 10 frères aînés. Et puis, il reçoit des songes de la part de Dieu très clairs où il voit en fait ses 10 frères aînés et puis ses parents se prosterner devant lui. Et puis, est-ce que Joseph était prêt à ce moment-là à vivre ça? Non, son cœur n'était pas prêt, pas disposé. Il va communiquer cette position plutôt que sa mission et il se fait vendre par ses frères. Ouais, non, tu n'étais pas prêt, mon gars. Il se fait vendre par ses frères, puis là, il devait se dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Puis en fait, Dieu l'emmène dans un processus, et puis Dieu l'accompagne tout du long, jusqu'au moment où il devient, il est exactement là où Dieu voulait l'emmener, ça correspond à sa vision, ok, il devient second pharaon, puissance mondiale, la première puissance mondiale, et puis tout d'un coup, ses frères, et puis même son père approche, et puis il se prosterne devant lui, et puis là, il ne communique pas sa position, mais sa mission. Parce que Dieu l'avait emmené dans un processus, et puis son cœur était prêt, et puis à la bonne place, avec Dieu, et puis dans sa mission. Dieu nous ramènera toujours dans une relation avec lui. Il nous ramènera toujours à le faire passer en premier. Il nous ramènera toujours à la première place. Je ne sais pas quelle est la promesse qui est devant tes yeux, quelle conquête, quelle situation, quelle saison de vie tu traverses. Mais est-ce que ça se peut que tu sois dans un processus de Dieu actuellement? Un processus par lequel Dieu te fait passer pour te ramener à lui, pour le faire passer lui à la première place, changer ton cœur, peut-être t'amener à guérir ou pardonner avant quelque chose d'autre. Et si ton désert, ce n'était pas juste un désert finalement. Quoi qu'il en soit, j'aimerais te rappeler que tu vives quelque chose de difficile en ce moment, ou pas. Ce qui est bon, c'est qu'au milieu du désert, Dieu était présent avec son peuple. Il était présent, il y avait cette colonne qui dirigeait, et il y avait cette nourriture qu'il donnait. Tout comme Joseph, il était présent, il l'a accompagné, il l'a béni. Donc peu importe ce que tu vis, Dieu est présent. Et puis Dieu va pourvoir, puis Dieu va t'accompagner. Mais sache que quoi que tu fasses dans ta vie, avec Dieu, il te ramènera toujours à lui. Et il ne fera que t'emmener dans des processus pour te préparer à une autre étape ou à quelque chose d'autre qui est bon pour toi. Donc, on va avoir un cœur entier vers Dieu. Il faut être conscient que Dieu, il va te transformer et puis t'amener dans des processus. C'est une réalité. Deuxième aspect que j'aimerais présenter de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Et si tu es mal à l'aise avec ça, tant mieux. C'est bien, c'est qu'on est bousculé un petit peu. Ok, ça me dérange ce truc, c'est bien, on va aborder ça, on va regarder ça ensemble. Après l'historique, un peu là, raconté par Josué, Josué va proposer au peuple de choisir Dieu ou les autres dieux des autres peuples. Je relis quelques passages. Josué 24, verset 15. « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Verset 16, le peuple répondit, « Nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. » Verset 19, Josué dit au peuple, « Ouais, mais vous ne serez pas capable de servir l'Éternel, parce que c'est un Dieu qui est saint, un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers. Il se retournera contre vous et vous fera du mal. Il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Verset 23, « Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Ici, Josué formule un choix radical à faire. C'est le moment du choix. Et en passant dans le chapitre 23, il va dire « J'arrive tranquillement au bout de ma vie. » Et on entend que c'est « Ok, je ne serai plus là pour diriger tout ce qui se passe. Vous êtes maintenant chacun dans vos territoires. Maintenant, c'est à vous de faire un choix. Ça ne dépend plus de moi. Est-ce que vous allez choisir Dieu ou vous allez choisir les autres dieux ?» Et c'est vraiment un choix. En fait, en choisissant l'Éternel, le peuple s'engage à vivre soit la bénédiction de Dieu, soit finalement la justice de Dieu, son jugement. Et ça dépend que de la fidélité du peuple de Dieu envers Dieu. Et on comprend qu'il est question de fidélité ici. Est-ce qu'en fait, vous allez être fidèle à Dieu? C'est ce que Josué dit. J'ai commencé mon message en parlant de l'alliance avec Dieu. On veut faire une alliance avec Dieu, un engagement, avoir un cœur entier avec Dieu. Et quand on parle d'alliance, on peut penser par exemple au mariage. Le mariage, c'est une alliance qu'on fait l'un avec l'autre, puis avec Dieu. Et le mariage engage la fidélité. Généralement, on se promet quand même ça, tu vois. On est d'accord qu'on ne peut pas être un peu fidèle. Imagine des gens qui se marient, puis c'est le moment des promesses, et puis le futur mari, il dit « Je te promets d'être un peu fidèle. » On peut la refaire, s'il te plaît ? C'est pas possible d'être un peu fidèle. Ou on est fidèle, ou on est infidèle. C'est comme être enceinte. Tu peux pas être un peu enceinte, non ? Ou tu l'es ou tu l'es pas. Okay ? C'est pareil avec la fidélité. Ou on est fidèle, ou on est infidèle. Il n'y a pas d'entre-deux. Et Dieu est un Dieu jaloux qui demande notre fidélité. J'ai dit cette expression, elle peut faire un peu bizarre quand on la lit. Parce que on va appliquer notre perception humaine et tordue de la jalousie à un Dieu parfait. Et on dit, ça colle pas, c'est bizarre, un Dieu jaloux. Mais il faut savoir que la jalousie, c'est un signe de protection et d'amour. Il y a un aspect tout à fait positif, même s'il y a un aspect possessif. Et en fait, comme la colère, qui n'est pas un péché, mais qui peut nous pousser au péché, la jalousie, ce n'est pas un péché en tant que tel, ça peut nous pousser au péché. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il ne veut pas partager. Il ne veut pas partager sa gloire parce que lui seul est digne de sa gloire. Il n'y a que lui qui mérite d'être glorifié. Et il ne veut pas partager sa gloire. Et pas comme un enfant de 2 ans qui ne veut pas partager ou pas parce qu'il a peur de perdre un peu de gloire. Il dit, s'il vous plaît, glorifiez-moi, je vais me sentir mieux après. Non, 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 il ne veut juste pas partager sa gloire. Il n'y a que lui qui est digne de cette gloire-là. Et si on s'engage avec lui, alors la gloire doit lui revenir car il est Dieu. Et si ce n'est pas encore très clair pour toi, je vais te donner un exemple. Okay, un exemple. J'en parlais ce matin avec mon fils, je lui dis « aujourd'hui, je vais parler de toi ». Il me dit « ah oui, pourquoi ?» et tout. Mais je dis « des fois, mon fils, Milo, il a 3 ans, il m'appelle Papa Jonas ». Je suis là « mon gars, c'est chou, mais non !» Déjà, d'où tu connais mon prénom, tu vois ? Fais mes impôts, vu que tu y es, vas-y. Et je lui dis « non, non, tu ne m'appelles pas Jonas ». Je dis « en fait, il n'y a que toi et ta sœur, dans toute l'humanité entière, qui avaient le droit de m'appeler papa et qui pouvaient m'appeler papa. C'est un privilège immense ». Et c'est ce titre-là que je suis pour toi, donc profite de ce privilège. Parce que ce n'est pas ton copain Antoine de la crèche qui va m'appeler papa. Si ton copain Antoine de la crèche, il commence à m'appeler papa, tu vas dire, mais non, c'est mon papa à moi, c'est. Tu vois, et je lui ai dit, et je réalisais aussi par là, que je dis, mais attends, mais si en fait, tout d'un coup, Milo, mon fils, il commence à appeler d'autres personnes papa. Je dis, mais mon gars, non, 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 mais c'est moi ton papa. Ne va pas appeler quelqu'un d'autre papa, c'est mon rôle à moi de prendre soin de toi, t'éduquer, t'amener à devenir un homme. Va pas donner de l'amour à un autre père, c'est moi ton papa, qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 moi je suis jaloux, moi je veux que ce soit juste toi et moi, il n'y a pas moyen qu'il y ait un autre papa dans l'histoire. Tu comprends comment Dieu est avec nous ? Non, 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 pas, je ne veux pas que vous alliez voir d'autres dieux, glorifier quelqu'un, mais c'est moi votre Dieu, c'est moi votre papa. Moi je suis jaloux, c'est juste entre vous et moi, et puis je vous aime, puis je vous écris, vous êtes mon peuple, et puis on a ce truc-là. Comment ça vous allez appeler quelqu'un d'autre éternel, Dieu ? Comment ça vous allez vous agenouiller devant... Non, 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 je suis l'éternel, je suis jaloux, je veux que ce soit juste vous et moi. Tu comprends mieux la jalousie de Dieu, comme quoi c'est pas péjoratif ici, comme quoi c'est pas négatif, comme quoi en fait c'est un acte d'amour. Et les amis, moi-même j'étais là, bon ce Dieu jaloux, ça fait longtemps que je l'ai entendu, mais je ne l'ai jamais étudié. J'ai commencé un petit peu à étudier, je suis là, bon, il y a un peu trop de matière quand même par rapport à ce sujet. C'était hyper intéressant et si tu veux en savoir plus, je suis tombé sur un essai sur la jalousie, c'est en anglais, mais ça se lit facilement, il n'est pas trop long, donc si ça t'intéresse, viens me voir à la fin, je te donne le lien de l'article. Et je vais juste te citer, avec beaucoup de frustration, juste une citation, mais une citation. L'auteur dit ceci, un amour sain et juste, sans jalousie, est un oxymore. Même au niveau humain, si un mari et une femme s'aiment vraiment, ils ressentiront de la jalousie si cette relation d'amour intime est menacée. Dans un mariage, ce type de jalousie, qui est un sous-produit nécessaire de l'amour, est évoqué comme un moyen de protéger la relation et de la maintenir intacte. Elle veut préserver ce qui est précieux et beau. Le mariage humain est modelé sur la relation qui existe entre Dieu et son peuple dans l'ancienne alliance, notamment ce qu'on vient de lire, et Christ et son Église dans la nouvelle alliance. Tout comme un mari est légitimement jaloux de l'amour de sa femme, ainsi, l'Éternel est jaloux de l'amour de son peuple allié, Israël de Dieu. C'est beau en fait, cette jalousie de Dieu, c'est qu'il demande juste de la fidélité. Et quand il pense, quand j'ai dit une alliance, c'est comme un mariage, c'est à peu près normal de demander à l'autre d'être fidèle, tu vois ce que je veux dire ? Ben, c'est pareil avec Dieu, c'est ce que Dieu demande, une fidélité à 100%. Et en fait, je trouve intéressant parce que si tu as déjà lu un peu la Bible, notamment, surtout l'Ancien Testament, on voit cette notion où Dieu désire tellement être le Dieu de son peuple. Je suis l'Éternel. Et puis, il y a des commandements, mais adorez pas un autre. Et puis, faites pas une image de Dieu. Et puis, il est tout le temps, non, mais moi, je suis l'Éternel, je suis votre Dieu, je vais être votre Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel parce que c'est son peuple. Il a levé Abraham, il a sorti d'Abraham ce peuple de Dieu avec qui il est en relation. C'est son enfant. Et il y a cette jalousie qui est là, une bonne jalousie. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il y a ce désir-là. Et partout dans l'Ancien Testament, et notamment dans les chapitres 23 et 24 de Josué, on a lu le chapitre 24. Je vous relis ici quelques versets du chapitre 23. Chapitre 23, versets 7 et 8. Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu. Non, l'employez pas. C'est moi, votre Dieu, ok ? Pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Tu te rends compte ? Mais oui, je suis trop jaloux. Faites pas ça. C'est moi, votre Dieu. Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Verset 11, veillez donc attentivement sur vous-même afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Chapitre 24, verset 14, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité, fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Dieu veut être seulement ton Dieu. Il ne veut pas qu'il y ait d'autres dieux dans ta vie. Tout comme le peuple avait le choix, tout d'un coup, Jésus les met devant le choix. Il leur fait comprendre, c'est un choix radical. Nous aussi, on a le choix. Et avec le choix vient les conséquences de nos choix, ce qui est normal. La bénédiction ou la justice de Dieu, le jugement de Dieu. Et ici, peut-être je peux faire une parenthèse, on se dit, waouh, Dieu va me maudire si je ne choisis pas ou si je m'engage avec lui et puis que je le trahis. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ma vie et tout ça. En fait, le premier jugement de Dieu, quand on choisit un autre Dieu que lui, on peut le voir dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, okay, ils choisissent de devenir entre guillemets leur propre Dieu. Est-ce qu'il y a une pluie de météorites qui est tombée sur eux? Non. La conséquence, ils ont été séparés de la présence de Dieu. Séparés de la meilleure relation d'amour possible. Tu te rends compte, être en relation avec Dieu, ça c'est juste une dinguerie déjà. Et on est coupé de ça. Et en fait, rien que ça, c'est un jugement de Dieu. Il dit, mais en fait, si vous voulez pas de moi, ben moi c'est ou 100% ou rien. Si vous êtes infidèle, je ne peux pas. Et on est juste séparés. Déjà, ça, c'est le jugement. Parenthèse fermée. Donc, tu n'es pas obligé de choisir Dieu, en fait. Tu n'es pas obligé de choisir Dieu. Mais si tu le choisis, il n'y a pas d'autre chemin qu'avoir un cœur entier pour Dieu. C'est ce que Dieu demande. Un cœur à 100%. Alors, un cœur entier pour Dieu, ça veut dire que Dieu ne te veut que pour lui. Et moi, je trouve ça beau. Mais oui, il y a une exigence. Oui, il y a un choix radical. J'aimerais te donner concrètement des pistes, des manières pratiques de développer un cœur entier pour Dieu. Ça vous parle ? Alors, premier conseil, donc, tiré de ce qu'on a pu lire, mets en place des pratiques spirituelles. Jonas, arrête de dire ce mot, on en a marre à Home. Les pratiques spirituelles, on n'entend que ça tout le temps. Mets en place des pratiques spirituelles, mon ami, c'est tellement la base. Josué 23, verset 6, appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, dans la Bible en gros, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Lire ta Bible régulièrement, parler à Dieu régulièrement, écouter Dieu régulièrement, louer Dieu régulièrement, donner à Dieu régulièrement, faire plein de trucs régulièrement avec Dieu. Ça va faire que tu seras tout le temps avec Dieu. Naturellement, ton cœur sera dévoué à Dieu. Ton cœur sera entier pour lui parce que tu vas cheminer avec lui, parce qu'il sera tout le temps là dans ta vie. Il sera au focus dans ta vie. Ta vie sera ancrée en lui. Donc si tu mets en place des pratiques spirituelles, des choses qui te ramènent à être à Dieu, à dire qu'il est bon, à dire qu'il est grand, à dire qu'il est incroyable, okay, alors ça va faire de ton cœur un cœur qui est dévoué, un cœur entier à Dieu. Deuxième chose que tu peux mettre en pratique, crains Dieu et sers Dieu. Josué 24, verset 14, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. La fin du verset répète, servez l'Éternel. Servir les amis, ce n'est pas devenir un leader d'église ou de s'impliquer le dimanche matin à l'église. Servir Dieu, et attention, tu vas être choqué par ma définition, c'est être au service de Dieu. C'est profond, c'est recherché, n'est-ce pas ? Être au service de Dieu. Et les amis, je parle de ça comme ça, de façon large. Parce qu'en fait, je crois que c'est un mindset, un style de vie. C'est de se dire, en fait, chaque jour, je me réveille et je suis au service de Dieu. Peu importe ce que tu fais. Et pour ça, je dis, laisse tomber le côté église, dimanche matin, tout ça. On réduit trop l'église au dimanche. L'église, c'est toute la semaine, ok ? Et Dieu, c'est tout le temps. Tu te réveilles le matin et tu te dis, je suis au service de Dieu. Dans mes études, dans ma journée au travail, dans mes révisions, dans mes examens, dans ce que j'ai à faire auprès de ma famille, auprès de mes amis. Aujourd'hui, je suis au service de Dieu. Avec les dons qu'il m'a donnés, au travers de mon travail, au travers de ce que je peux faire, de quelqu'un que je peux aider. Ou simplement, juste en obéissant à sa parole, je suis au service de Dieu. Je veux faire ce que Dieu faisait. Il y a un problème dans mon travail, des collègues, il y a une embrouille, je ne sais pas quoi. Je veux être au service du plus faible, je veux défendre le plus faible. Je veux faire ce que Dieu faisait. Et en fait, chaque jour, être au service de Dieu, juste un mindset, une posture de cœur. Je veux servir Dieu aujourd'hui, au travers de mon travail, comme j'ai dit, des études, de toutes sortes de choses. Et oui, tu peux aussi servir Dieu à l'église, évidemment. Mais respecter, ça peut être respecter ses commandements quand tu fais tes courses, par exemple. Être au service de Dieu à chaque instant de ta vie, en obéissant ses commandements, puis en utilisant les dons que Dieu t'a donnés. En servant Dieu, en fait, tu es en train d'attester qu'il est ton maître et que tu lui appartiens et que ton cœur est à lui. Servir Dieu, c'est dire, en fait, je sers mon maître, je sers Dieu. Et d'ailleurs, dans la parole, c'est souvent dit, hein, il y a ce verset, ben voilà, Dieu ou Mammon, nul ne peut servir deux maîtres, ou l'un ou l'autre. Donc, mets-toi au service de Dieu, développe cet état d'esprit où je suis un serviteur de Dieu. Et aujourd'hui, peu importe ce que je vais faire, je vais être à disposition de Dieu. Et ça va te placer en position de serviteur. Et ton cœur, donc, sera développé pour être un cœur entier. Et troisièmement, détache-toi des autres dieux. Il y a des choses avec lesquelles on trompe Dieu, qui nous rendent infidèles envers lui. J'emploie des mots forts, hein, je sais. Avoir un cœur entier, ça implique le choix radical de se débarrasser de ses autres dieux. C'est pas facile, les amis. Un choix radical de se débarrasser des autres dieux. Jésus, il insiste. Non, mais vous voulez choisir Dieu ou les autres dieux? Non, on va choisir Dieu. Non, mais en fait, vous n'êtes pas capable. Dieu est un Dieu jaloux. Vous êtes sûr parce que vous allez lui désobéir et tout ça? Ok, vous voulez vraiment... Ok, alors craignez Dieu. Et puis mettez vos dieux de côté et puis servez-le. C'est un choix radical. Vous êtes sûr que vous les servez? Ok, alors il faut mettre les dieux de côté maintenant. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Ça veut dire quoi? Un choix radical de se débarrasser, de tout faire pour lâcher les autres dieux et ne plus tromper l'Éternel. D'arrêter peut-être les demi-solutions ou les compromis. Si un homme trompe sa femme, il ne peut pas dire... Je vais essayer de moins voir ma maîtresse. Super radical, tu vois l'idée? Non, en fait, il y a des choix radicaux qui doivent être faits dans nos vies pour mettre ces faux dieux de côté. Ça peut être ces autres dieux, ça peut être des addictions, un projet ou ton travail. Et puis tu travailles, puis c'est pas mal de travailler fort, puis d'avoir une carrière. Mais des fois, on est tellement focalisé là-dessus que ça devient notre dieu, notre but ultime, ce qui nous apporte du bonheur, puis de l'épanouissement. Et puis Dieu est mis de côté. Les autres dieux, ça peut être un rêve que tu poursuis, les promesses qui sont devant tes yeux, même des promesses de Dieu. Et puis c'est tellement devant tes yeux que tu vois même plus Dieu, il n'y a même plus Dieu devant tes yeux. Ces autres dieux, ça peut être peut-être des mauvaises relations, des relations toxiques qui t'influencent en mal. Je pense ici à ce verset qu'on a lu aussi, Josué 23, verset 7. « Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. » Tu vois, ils ont conquis le territoire, mais il reste encore des nations avec leur culture, puis leur faux dieu. Ne vous mélangez pas avec les nations. Il va dire même dans d'autres versets de Josué, mais vous ne mariez pas, ne faites pas des mariages. Ne prononcez pas le nom de leur dieu, ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas, ne vous prosternez pas devant eux. Il y a une influence qui est là et peut-être ces autres dieux, c'est juste l'influence. Il y a des relations toxiques qui t'influencent en mal, puis qui t'éloignent de Dieu. Et peut-être qu'il y a des relations qu'il faut couper. Si tu le fais, fais-le avec amour, ok? Toujours avec amour. Et ou peut-être c'est couper ou prendre de la distance parce qu'il y a des gens qui ont une influence mauvaise dans ta relation avec Dieu. Et les amis, ça peut être dur, j'en suis conscient. Et on est tous concernés. Ça peut être des fois juste un petit quelque chose qui nous fait perdre le focus, ok? Et puis on doit juste peut-être redonner quelque chose à Dieu ou abandonner de nouveau quelque chose à Dieu. Et parfois, c'est un choix dans lequel on faillit en fait, et puis on reprend ce choix, et puis on tombe, puis on reprend ce choix, et puis on continue de combattre pour mettre ces dieux-là de côté. Et les amis, parfois, ça prend aussi de l'aide. On le dit tellement ici, on veut faire la vie ensemble, et puis on le dit aussi, c'est qui tes gens? C'est qui avec qui tu chemines dans ta foi? C'est qui prie avec toi? Et moi, j'ai envie de te dire, si il y a un dieu, un faux dieu, duquel tu dois te débarrasser, parle-en à quelqu'un, un frère dans la foi, un parent spirituel, avec qui tu vas combattre ce truc-là? Avec qui tu vas prier? Et peut-être ça sort de l'église, peut-être que tu as besoin d'aide, j'en sais rien, d'un psychologue, d'une relation d'aide, de quelqu'un d'autre, d'un pasteur, de je ne sais pas quoi, mais fais tout ce qu'il faut pour te débarrasser de ça. Et on veut t'aider, on ne veut pas te juger. Il y a d'ailleurs ici, on offre de l'écoute pastorale ici à Home, je ne sais pas si tu le savais, sur la table du Welcome Point, il y a un petit QR que tu peux scanner, besoin d'écoute, tu scannes ça, et puis on se tient à disposition pour prendre du temps avec toi, et puis t'écouter, et puis t'accompagner. Mais fais tout ce qu'il faut pour être fidèle envers Dieu. Amen. Tout comme Josué encourageait le peuple à se détourner des autres dieux, est-ce que nous aussi, c'est le cas? Ou dit de façon plus cash, est-ce que, avec qui ou avec quoi est-ce qu'on a tendance à tromper Dieu? Qu'est-ce qui provoque la jalousie de Dieu? Dieu ne te veut que pour toi, et c'est pour ça qu'il te demande un cœur entier, parce que Dieu est un Dieu entier. Le troisième aspect, dernier aspect de Dieu que j'aimerais présenter, c'est que Dieu est un Dieu de grâce. Puis je vais inviter l'équipe Louange à revenir. Je vais aller rapidement sur ce point. Dieu est un Dieu de grâce. Je viens de parler du choix radical, l'exigence de Dieu, la fidélité qu'il demande. Et ça peut paraître genre, waouh, c'est lourd, c'est intense, c'est beaucoup et tout ça. Mais j'aimerais juste rappeler quelque chose dans ce point-là. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Tu sais, Josué, bien plus tôt dans le livre, avant de rentrer dans Jéricho, il y a un ange de l'Éternel qui arrive, un envoyé de Dieu, puis il dit, mais c'est comme s'il disait à Dieu, t'es pour nous ou t'es contre nous? Et on voit Josué 24, il fait un récit d'en fait comment Dieu a été pour nous depuis le départ. La question, en fait, ici, elle n'est pas à se poser est-ce que Dieu est pour nous, contre nous. En fait, Dieu est pour nous. La question qu'on se pose, c'est est-ce que nous, on est pour Dieu? Et Dieu est un Dieu de grâce. Je vais t'expliquer, je vais te donner une image. Peut-être que tu connais un couple où tu te dis, qu'est-ce que ce gars, il trouve à cette fille? Je ne comprends pas. Ou alors, qu'est-ce que cette fille trouve à ce gars? Tu sais, normalement, un couple, c'est un peu win-win, tu vois. Et tu es là, genre, non, mais là, ça ne marche pas, c'est complètement déséquilibré. Des fois, moi, je me sens comme ça dans mon couple et je dis, moi, je suis gagnant dans mon couple, tu vois. C'est ma perspective. Et en fait, je trouve ça fou parce que qu'est-ce que Dieu nous trouve à nous? Sinon, on devait se marier avec Dieu, qu'est-ce qu'on a à mettre sur la table? Rien. Si on met ça dans le contexte d'un mariage, il faut imaginer que Dieu, il a tout organisé. Il a fait des faire-part stylés, mon gars, stylés. Il a envoyé avec un beau timbre, il a écrit à la main une écriture divine. Chaque nom, il a invité les 1200 personnes de vos deux entourages. Il a tout organisé, une belle église, un beau truc, il a prévu le beau temps. Il a payé tout le mariage, il a acheté une maison aussi dans laquelle vous allez vivre. Il a décoré Pinterest et Marie Kondo, si ça existe encore, je ne sais pas. Tout est là, tout est bien. Il a tout prévu. Abonnement Disney+, Netflix, Amazon Prime et Prime Vidéo. Il a même commandé les sushis. Et nous, dans le mariage, on arrive finalement. Bon, bah, volontiers, je me marie avec toi. Dieu, en fait, est pour nous. Dieu a déjà tout fait. Quand deux personnes se marient, elles se promettent des choses qu'elles vont devoir tenir leur engagement pendant le mariage. Dieu a déjà accompli ses promesses. Il est déjà venu sur terre. Il a déjà pris ton péché à la croix. Il t'a déjà donné sa présence. Il est présent déjà dans ta vie, il te transforme déjà. Il a déjà tout fait. Dieu est pour toi. Et ça peut paraître exigeant, ce Dieu qui exige tout. Et en fait, tout ce que Dieu exige, c'est ta fidélité. Je l'ai dit dans un mariage, est-ce que c'est fou d'exiger de la fidélité? C'est un choix radical, oui. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et tout ce qu'il fait, c'est par amour. Et je trouvais intéressant de se dire, vraiment, je voulais absolument contraster. Un choix radical, un cœur entier pour Dieu. Et puis Dieu partage pas, c'est un Dieu jaloux. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Amen.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.